Vous écoutez On lit pour vous.
Le rôle de Big Tech dans la propagation de la désinformation. Un texte d'Eliette Lévy, publié le 9 janvier 2026 dans La Liberté. Relevant du vaste domaine des préjudices en ligne, terme utilisé pour englober tout l'éventail des activités potentiellement dangereuses sur Internet, du contenu illicite au discours haineux, la propagation des fausses informations est un problème qui ne fait toujours pas l'objet de véritables mesures de protection. Discussion avec Helen Hayes, directrice du développement et chercheuse principale au Center for Media, Technology and Democracy, sur la responsabilité des grandes entreprises technologiques. Alors que les outils permettant de créer et de diffuser de la mésinformation et de la désinformation évoluent à une rapidité folle, une question indispensable se pose. Qui devrait être responsable de mettre en œuvre des mesures de protection contre la propagation de fausses informations? Selon les experts, tant le gouvernement que les grandes entreprises technologiques ont des responsabilités envers les consommateurs, mais pour des raisons différentes. À elles seules, les grandes entreprises technologiques ne sont pas incitées à mettre en place des mécanismes réglementaires, explique Helen Hayes, directrice du développement et chercheuse principale au Center for Media, Technology and Democracy. Leur autorégulation est tempérée par la façon dont elles pensent que leurs marges de profit seront affectées par les différentes conceptions de système. Les gouvernements, quant à eux, ont tout intérêt à améliorer la démocratie, à préserver la santé de l'écosystème de l'information et à renforcer la confiance de leurs citoyens. Jusqu'à présent, malgré de nombreuses tentatives visant à légiférer sur l'industrie technologique, les lois canadiennes sur le sujet restent rares. Après deux tentatives infructueuses visant à réglementer les préjudices en ligne, le gouvernement libéral n'a toujours pas réintroduit les projets de loi qu'il avait rédigés et qui ont été abandonnés lors des élections d'avril 2025. Un cours historique de la législation récente sur les préjudices en ligne. La question de la réglementation des préjudices en ligne au Canada prend réellement son essor fin 2020, lorsque les Canadiens commençaient à discuter de plus en plus de la nécessité de réglementer les géants de la technologie. Des consultations publiques avaient alors été organisées et la Commission canadienne sur l'expression démocratique a été créée afin d'identifier et de répondre aux effets des plateformes technologiques sur la démocratie. Les consultations publiques et les groupes d'experts organisés dans le cadre de cette commission ont permis de déterminer que les compagnies Big Tech devaient être réglementées en raison des préjudices en ligne auxquels les citoyens sont constamment exposés. Ces réglementations s'inspireraient et tireraient les enseignements des législations mises en œuvre dans d'autres régions du monde. Par exemple, les législateurs se sont penchés sur la NetzDG, loi allemande créée en 2017 pour lutter contre les fausses informations, les discours haineux et d'autres formes de contenu préjudiciables. La loi imposait une lourde amende aux plateformes en ligne qui ne supprimaient pas les contenus préjudiciables dans les 24 heures suivant leur publication. Une règle qui est devenue problématique lorsqu'on s'est aperçu que les plateformes supprimaient plus de contenu que nécessaire par crainte de devoir payer l'amende. Au lieu d'opter pour une approche trop prudente qui risquait d'enfreindre la liberté d'expression de plusieurs internautes, les législateurs canadiens ont décidé de se concentrer sur une approche qui imposerait aux géants de la technologie ce que l'on appelle des obligations de diligence. Cela implique un devoir de responsabilité, un devoir de suppression des contenus illégaux et un devoir de protection des enfants. Ce sont là les trois principales obligations qu'ils recherchaient, qui ont évolué au fil du temps pour aboutir à la législation que nous connaissons sous le nom de projet de loi C-63 ou la loi sur les préjudices en ligne. L'objectif du projet de loi était de réglementer certaines formes de contenu, principalement celles qui portaient atteinte aux enfants. Les contenus liés à l'automutilation, à la cyberintimidation, aux abus sexuels, au terrorisme, devaient être supprimés, sous peine de lourdes amendes pour les plateformes. Ils devraient également prendre une série d'autres mesures, notamment publier des évaluations des risques liés à leur propre plateforme, modifier la conception de leur système, etc. Bien que le projet de loi ait été généralement bien accueilli, la décision de Justin Trudeau de proroger la session parlementaire a mis fin aux travaux sur ce projet de loi et, par le fait même, au projet de loi C-27 qui aurait fourni une législation sur les systèmes d'intelligence artificielle. La réglementation idéale des préjudices en ligne. Même si le Canada est revenu à la case départ, le travail accompli sur le projet de loi C-63 a permis d'identifier les éléments fondamentaux de la réglementation en ligne. Il a défini des mécanismes de transparence, d'évaluation des risques et d'audit qui constituent tous les fondements d'une bonne politique relative aux plateformes en ligne. Les mécanismes de transparence impliquent que les grandes entreprises technologiques devraient publier des informations sur la manière dont elles gèrent leur système, incluant le nombre de personnes qui signalent des contenus et la quantité de contenus supprimés. Les modèles d'évaluation des risques sont, quant à elles, des prévisions concernant le niveau de risque lié à l'utilisation d'un certain système, ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques. Enfin, l'audit serait la partie de la législation qui prévoirait qu'un acteur indépendant corrobore les évaluations de la plateforme et identifie les problèmes à résoudre de manière indépendante. Les préjudices en ligne et le contexte de l'IA. Ces mêmes mécanismes réglementaires sont également nécessaires dans le domaine des systèmes d'intelligence artificielle, IA. Par exemple, afin d'atténuer les risques potentiels liés à la diffusion de contenus générés par l'IA, un mécanisme de transparence pourrait ajouter un filigrane numérique ou une étiquette alertant les utilisateurs de la nature du contenu qu'ils consomment. Selon Helen Hayes, ce niveau de transparence est particulièrement important dans le domaine de l'IA, car l'interaction des utilisateurs avec l'IA diffère d'une plateforme à l'autre. un utilisateur des réseaux sociaux qui tombe sur du contenu généré par l'IA dans son fil d'actualité ne s'y engage pas de manière aussi volontaire que quelqu'un qui discute avec ChatGPT. La question est de savoir si vous consentez et comprenez pleinement que vous interagissez avec un système d'IA générative. En outre, les entreprises technologiques devraient être réglementées afin d'être tenues responsables du contenu généré par l'IA et d'en limiter la diffusion, d'autant plus que les algorithmes peuvent très facilement sélectionner et proposer ce type de contenu aux utilisateurs. Comme il peut être généré très rapidement, il peut également être diffusé rapidement par des systèmes de robots. C'est pourquoi de plus en plus de personnes réclament que les dispositions relatives à l'IA soient intégrées dans la législation sur les préjudices en ligne plutôt que dans des projets de loi distincts. Les manquements des entreprises Big Tech. Présentement, les entreprises technologiques en font peu pour limiter la propagation des fausses informations en ligne. Si certaines plateformes disposaient auparavant d'équipes dédiées à la vérification des faits, beaucoup d'entre elles ont remplacé ce système par un autre, moins coûteux en main-d'œuvre. Ce nouveau modèle, basé sur la vérification des faits par la communauté, donne responsabilité aux utilisateurs eux-mêmes de corriger les informations erronées qu'ils rencontrent sur chaque plateforme. En ce moment, c'est la seule mesure de précaution, ce qui est scandaleux, dit Helen Hayes. Ce modèle open source pourrait, en théorie, être utile, mais en pratique, il présente une multitude de défis, notamment en matière d'expertise. Qui détermine quels faits sont corrects? D'où proviennent les recherches? Mais cette mesure régressive n'est pas le seul changement apporté par les entreprises technologiques qui a permis une plus grande propagation de fausses informations. En 2018, Facebook a été la première plateforme à modifier son fil d'actualité pour adopter un modèle basé sur un algorithme. Avant ce moment, les seules publications qui apparaissaient dans le fil d'actualité d'un utilisateur provenaient de ses amis, des pages qu'il avait aimées et des groupes dont il faisait partie. En bref, uniquement les choses qu'il avait choisi de voir. Après le changement, la chronologie s'est transformée en ce que l'algorithme pense que chaque utilisateur aimerait voir en fonction de ses goûts, des groupes auxquels il appartient et du contenu qu'il a consulté. C'est pourquoi quelqu'un qui a regardé 10 vidéos de chiens en verra soudainement 100. C'est un exemple tout à fait innocent. Mais avec la désinformation et la mésinformation, si vous êtes susceptible de lire des plateformes ou des faux médias d'information qui publient des fausses nouvelles, davantage de contenus de ce type apparaîtront dans votre fil d'actualité. Cela incite les gens à rester plus longtemps sur leurs écrans. Les entreprises n'ont aucun intérêt à réglementer la diffusion de ce contenu, car cela permet de fidéliser les utilisateurs à leur plateforme. Le contrôle que nous avons en tant qu'utilisateurs sur les recommandations que nous fournissent nos algorithmes est pour le moins limité. Sur TikTok, par exemple, cela se traduit par la possibilité de supprimer son historique de navigation. Cette fonction ne réinitialise pas réellement l'algorithme, mais efface simplement ce que vous avez regardé afin que vous puissiez mieux le redéfinir. L'année dernière, je travaillais sur un projet concernant les troubles alimentaires sur TikTok et dans le cadre de ce projet, j'ai dû créer un compte. Cette expérience de recherche a été très traumatisante et j'ai réinitialisé mon fil d'actualité après coup, mais le service continuait à me recommander les mêmes contenus qu'auparavant. Cette fonctionnalité, appelée « contrôle algorithmique », n'existe pas sur Facebook, X et Instagram. Mais elle occupe une place de plus en plus importante dans les efforts de sensibilisation menés par divers groupes, notamment ceux qui luttent pour les droits des enfants, afin d'essayer de reprendre le contrôle de nos contenus. Il ne s'agit plus de choisir le type de contenu que vous souhaitez voir. Il s'agit désormais de devoir s'y désinscrire, ce qui est une structure de consentement complètement différente. Ce que les géants de la technologie devraient faire. Dans un monde idéal, les entreprises technologiques elles-mêmes traiteraient les préjudices en ligne non pas comme des problèmes de contenu isolés, mais comme des problèmes de conception, de gouvernance et d'incitation, explique Helen Hayes. Elle entend par là que des choix responsables devraient être intégrés aux plateformes elles-mêmes et développés en coordination avec des experts externes dans le respect des normes de sécurité et après avoir subi des tests de performance. Les algorithmes seraient transparents et ajustables et les plateformes fourniraient des données standardisées en temps réel aux chercheurs et aux décideurs, ce qui faciliterait l'examen des pratiques de ciblage publicitaire et d'amplification de contenu. Au lieu des fils d'actualité opaques visant à maximiser l'engagement, les plateformes offriraient aux utilisateurs un contrôle significatif. Options chronologiques, fils non personnalisés et possibilité de se désinscrire complètement du profilage. Dans des contextes à haut risque, comme la santé publique ou en période d'élection, les plateformes rétrograderaient temporairement les contenus non vérifiables, ralentiraient leur vitalité et mettraient en avant les sources faisant autorité. Elle ajoute que les entreprises technologiques devraient agir de manière véritablement responsable plutôt que de se contenter de se conformer à la réglementation lorsqu'elle est mise en œuvre et appliquée. Si les plateformes accordaient autant d'importance à la sécurité, à la transparence et à la résilience démocratique qu'elles en accordent à l'engagement, les préjudices en ligne seraient considérablement réduits. C'était le rôle de Big Tech dans la propagation de la désinformation. Un texte d'Eliot Levy, publié le 9 janvier 2026 dans La Liberté.
La différence entre le hockey et le vélo. Un texte de Patrick Lagacé paru le 19 octobre 2025 dans la presse. Vous connaissez cette expression. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et c'est vrai, ça ne s'oublie pas le vélo. Tu remontes dessus après des années, après des décennies, et ton corps se souvient des mouvements simultanés qu'il faut accomplir pour avancer et rester en équilibre. Geste si simple quand le corps sait, et si complexe quand il ne sait pas. C'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. On dit ça des tâches avec lesquelles on renoue instinctivement. Le corps et l'esprit ont une mémoire musculaire, neuronale. Eh bien, j'aimerais vous dire en ce dimanche plein de soleil que le hockey, ce n'est pas comme le vélo. J'ai eu une idée de fou à la fin de l'été 2025. M'inscrire à une ligue de garage avec mon fils. Pour lui, un retour au jeu après 3 ans de retraite. Pour moi, un retour au jeu après 38 ans de retraite. Quand je parle de retour au jeu, j'exclus les sorties hivernales dans les parcs de la ville. Je parle de hockey organisé avec l'équipement, des arbitres et tout et tout. Tout au long de l'enfance de l'héritier, puis de son adolescence, j'ai enfilé les patins pour aller jouer avec lui à la patinoire. Je parle de ces jours de moins en moins nombreux où il faisait assez froid pour patiner, des matchs improvisés entre étrangers. Oui, ces matchs-là. Les bâtons au milieu, un joueur les balance de part et d'autre de la glace, puis boum, les équipes sont artisanalement composées. Un beau flash. Les adultes qui laissaient l'enfant de 11 ans avec le chandail des Kings allaient marquer des buts quand ils se présentaient en zone adverse. Je me débrouillais, pour ainsi dire, encore assez rapide, assez vif, expérimenté pour ne pas m'embarrasser à outrance. Je me débrouillais, mais je me sentais quand même décliné. Un hiver, peut-être l'hiver 2017 ou 2018, le petit et moi étions allés jouer, juste lui et moi. On jouait à s'enlever le puck. Et jusqu'à cet hiver-là, je parvenais à le dominer, à le contrôler. Grâce à la différence de force, grâce à l'expérience musculaire et neuronale, grâce à ces années à jouer. Jadis. Puis, en février de cette année-là, sur une patinoire d'Outremont, j'ai réalisé dans le froid mordant que c'était le dernier hiver où le père était meilleur que le fils. Il était plus vif, plus fort que jamais, plus habile. Et ce soir-là, en quittant la glace, je me souviens m'être dit « L'hiver prochain, c'est lui qui va te bouffer. » C'est une loi immuable de la nature. Il y a une vigueur physique propre à la jeunesse qui est imparable. Je ne parle pas d'être en forme. Je suis plus en forme qu'à 33 ans, il y a 20 ans. Je parle d'autre chose, d'explosion musculaire, de coordination oculo-manuelle. Je parle du corps qui obéit immédiatement à l'esprit, à l'instinct, au réflexe. Avancer la cassette jusqu'au match du samedi soir dans cette ligue de garage. Des vieux, en majorité, je veux dire des plus de 40 ans. Quelques jeunesses, comme mon fils. Quelques hommes qui sont sur le point de s'inscrire sur la liste d'attente d'un médecin gériatre, des plus de 50 ans, comme moi. Et je pensais, avant le premier match, que le hockey serait comme le vélo, que ça reviendrait tout naturellement. Que reviendrait l'époque où je jouais tout le temps, partout, dans la rue, à l'aréna, au parc. L'époque où je revenais de la patinoire à la maison, les pieds gelés, pour dîner, et que je repartais, les pieds encore gelés, pour jouer à la patinoire du parc Marc-Aurèle-Fortin. Encore et encore. Que reviendrait l'époque où j'étais bon. Ouf! Quel réveil brutal! Réveil le plus souvent allongé de tout mon long. Imaginez un jeu vidéo détraqué. Vous maniez la manette pour faire bouger votre joueur, mais il y a un décalage entre la manette et votre avatar. C'est ce que je ressentais. Ce que mon cerveau savait faire, mon corps ne savait plus le faire, ou en tout cas plus aussi rapidement. Il y avait 1 million d'années-lumière entre ce que je voulais faire et ce que mon corps faisait. Je me faisais soutirer le puck dans l'intervalle. Réception d'une passe, départ en explosion, pivoter, changer de direction. Tout était lent, compliqué, lourdeau. Mon fils, qui se couche à 2 heures du matin, qui se lève à 11 heures, qui carbure à une solide diète de Doritos, de Fruit Loops et d'ailes de poulet, pour qui travailler son cardio est une notion qui n'existe que sur un bixi électrique. Eh bien, il volait sur la glace. Son corps faisait exactement ce que son cerveau commandait. Changement de direction, passe du revers, tir voilé, tout coulait de source. À un point du match, il a déjoué un défenseur en laissant traîner la rondelle derrière lui pour la faire dévier avec son patin en la projetant devant lui, tout en contournant le défenseur. Il n'a pas marqué. Pas ce coup-là. Il a marqué plus tard dans le match. Dangereux, à chaque présence. Et pas juste dangereux, bon sang. Beau. Salement beau. Dans la fluidité du geste, dans la facilité d'exécution. L'impétueuse beauté de la jeunesse. Et surtout, si beau dans son grand sourire, au retour au banc pour ce court repos, nous jouons à 2 trios, les vrais vont comprendre, avant de rembarquer. Et juste pour voir ce sourire, l'humiliation que je vis à chaque match, en bousillant des gestes que je faisais jadis les yeux fermés, en m'étendant par exemple de tout mon long en tentant de pivoter, en vaut la peine. Rien ne se perd, rien ne se crée. Le neuf pousse sur le vieux, et si je le savais, elle mangerait moins de Doritos et ne tiendrait rien pour acquis, surtout pas la beauté de la fluidité d'un slapshot décoché par une musculature encore couverte par la garantie du fabricant. C'était « La différence entre le hockey et le vélo ». Un texte de Patrick Lagacé, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.